L'Esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints en direct du studio 105, en direct et en public, devant un studio 105 comble, ce qui évidemment nous va d'autant mieux droit au cœur que la maison de la radio est plus ou moins cernée par des fêtes équestres, et chaque fois que nous faisons une émission en direct et en public, une malédiction s'abat sur nous. La dernière, en général, il court à pied, mais cette fois-ci, voilà qu'il court à cheval et même en calèche. C'est donc l'Esprit public et nous allons essayer d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, essayiste, avec Sylvie Kaufmann, directrice éditoriale au journal Le Monde, et avec Jean-Louis Bourlange, directeur général de la Fondation... Non, pas... Avec Thierry Pech, directeur général de la Fondation Terra Nova, parce que là, vraiment, sinon, ça ne marcherait pas. Et nous allons commencer par nous intéresser, au candidat Emmanuel Macron. L'ancien ministre de l'économie et fondateur du mouvement En Marche, Emmanuel Macron, a annoncé mercredi 16 novembre sa candidature à l'élection présidentielle depuis le centre des métiers de Bobigny en Seine-Saint-Denis. Il s'est posé en alternative à un système politique obsolète et clanique et comme porteur d'un projet d'émancipation des personnes et de la société française. Il a décrit une France bloquée par les corporatismes et appelé à réhabiliter le travail, croire en la jeunesse et libérer les énergies dans une démarche de rassemblement des Français au-delà du clivage gauche-droite. Cette déclaration fait suite à un long entretien d'Emmanuel Macron publié par le magazine L'Obs du 10 novembre où le candidat expose les principales mesures de son programme. Il s'y prononce en faveur d'une véritable autonomie pédagogique des établissements scolaires au bénéfice des écoliers les moins favorisés, d'une adaptation de la durée légale du travail selon l'âge des salariés, d'une modulation de l'âge du départ à la retraite en fonction des métiers exercés, d'une nationalisation de l'UNEDIC et d'une extension du droit au chômage pour les démissionnaires, les travailleurs indépendants et les auto-entrepreneurs. Cette candidature, annoncée 3 jours avant le premier tour des primaires de la droite et du centre, a provoqué l'agacement de personnalités comme Valérie Pécresse, qui a refusé de reconnaître Emmanuel Macron comme un centriste, et François Baroin, qui l'a qualifié, je cite, « d'enfant de la Hollandie, entraînant dans la curée ceux qui lui ont donné sa chance de départ ». Les réactions les plus vives émanent cependant du camp socialiste. Le candidat à la primaire à gauche, Benoît Hamon, a appelé Emmanuel Macron à rendre public les noms des donateurs de sa campagne qu'il a estimé très riches. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, a jugé cette candidature très embêtante et mis en garde contre une dispersion des voix de gauche avant l'élection présidentielle. La presse étrangère a abondamment relayé la fébrilité causée par l'annonce de cette candidature dans les rangs socialistes. La Frankfurter Allgemeine Zeitung fait état d'une crédibilité du président de la République toujours plus affaiblie, alors que le Premier ministre Manuel Valls spécule toujours plus ouvertement sur sa renonciation, de François Hollande, à briguer un deuxième mandat. Le quotidien espagnol El País relève, je cite, « un nouveau coup porté par le jeune candidat à son mentor, déjà très affaibli, alors que même dans ses propres rangs, on pousse le président à abandonner l'idée de se présenter ». Sur cette question, Jean-Louis Bourlange.
Oui, Emmanuel Macron est un personnage qui véritablement offre un cocktail très intéressant d'atouts, de qualités assez exceptionnelles et de handicaps qui ne le sont pas moins. Et il faut l'arbitrage de l'opinion, plutôt du peuple, entre ses qualités et ses inconvénients et ses handicaps n'est pas fait. Sur le plan, je crois que Macron, dans sa démarche, a 3 atouts pour lui. D'abord, sa personne. Son charme, sa jeunesse, son intelligence, sa vivacité, le fait que, manifestement, il dit des choses qu'il pense, peut-être un peu trop. Je ne dis pas qu'il faille dire comme Sacha Guitry à quelqu'un, à qui quelqu'un disait « Moi, vous savez, je parle comme je pense ». Et Sacha Guitry répondait « Oui, mais hélas, beaucoup plus souvent ». Eh bien, je pense que Macron, de temps en temps, dérape un peu, mais malgré tout, on a une fraîcheur et une authenticité derrière ces prises de position qui, je crois, est réconfortante dans ce monde de vieux crabes qui est celui de la politique française. Le deuxième atout, c'est évidemment une crise fondamentale de la droite et de la gauche, qui sont l'une et l'autre profondément séparées, la droite entre une version haronienne et une version traditionnelle, plus traditionnaliste et nationaliste de ces options, la gauche autour de l'économie de marché ou du refus de cette économie de marché, et Macron représente effectivement l'espoir d'une convergence très positive, très intéressante, entre des valeurs de liberté, d'initiative économique, de régulation économique en même temps et de protection sociale, qui est une synthèse après laquelle fondamentalement le peuple français court, à laquelle il aspire. Troisièmement, il a effectivement face à lui la vivacité, vous en avez cité quelques exemples, Philippe, de ses détracteurs. Et quand on voit ce tombereau qui s'abat sur lui, on se dit que peut-être un homme qui est critiqué par des gens qui, depuis des années, remuent la même pâte assez boueuse, eh bien, à droite et à gauche, eh bien, c'est peut-être un atout. C'est peut-être une chance pour lui, c'est peut-être la marque qu'il représente une véritable percée. Bon, alors maintenant, à côté de ça, il y a les handicaps, et ils sont très forts. Je crois qu'un combat politique suppose fondamentalement, hein, je dis fondamentalement, il paraît qu'il faut que je me garde de ce défaut, je emploie trop souvent ce terme, je m'excuse auprès de nos auditeurs, je vais essayer de faire attention, mais je n'arrive jamais à faire attention. En tout cas,
c'est parce que fondamentalement, vous êtes inattentif.
Fondamentalement, je suis fondamentaliste. C'est ça le problème principal. Ça doit être un pacte qui combine trois choses. Une alliance sociale, une formule politique et un message idéologique. L'exemple même, regardons De Gaulle en 58. Les trois lois fondatrices, refondatrices de la droite française. La loi sur l'enseignement privé, qui réconcilie le service public de l'éducation nationale avec l'école privée, au moins pour une vingtaine d'années. Deuxièmement, la loi sur la réforme hospitalière, qui réconcilie la profession médicale avec l'État. Et troisièmement, la loi d'orientation agricole, qui réconcilie une population massive à l'époque avec les valeurs de l'État républicain. Ça, Debré, je suis en désaccord avec Debré sur beaucoup de choses, mais l'homme qui fait ces trois lois, c'est quelqu'un qui comprend ce qu'est une société et un pacte politique. Deuxièmement, je ne trouve pas chez Emmanuel Macron ces éléments. Sur le plan idéologique, alors sur le plan politique, une formule, et sur le plan idéologique, bon, je vous dispense de la déclinaison. Sur le plan idéologique, Je trouve que Macron a un peu trop tendance à remplacer Monsieur Petite Blague, pour parler comme Laurent Fabius de François Hollande, par Monsieur Bonnes Idées. Alors, c'est pas avec des bonnes idées, des bons trucs techno, plus ou moins d'ailleurs sulfureux, parce que quand il commence à dire qu'il faut refuser aux jeunes le bénéfice des 35 heures, je crois que là, il s'oriente sur un chemin très dangereux, qui est celui de Villepin et du CPE. C'est pas ce qu'il faut faire. Mais il a des petites idées comme ça. Or, c'est pas ça qui est nécessaire. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est savoir sur quoi refonder le pacte social, avec qui. Il suffit pas d'avoir les jeunes et les bobos. Il faut réconcilier les salariés du privé et du public. Il faut réconcilier, avoir un nouveau pacte intergénérationnel qui ne soit pas celui qu'imaginait Hollande, qui était assez dérisoire. Il faut avoir surtout un équilibre entre les valeurs de liberté et d'égalité. Alors, il le cherche, mais il ne le formule pas avec cette vigueur. Et enfin, sur le plan politique, institutionnel, on ne voit pas, et ça c'est fondamental, si je puis me permettre, c'est le problème de Macron. On n'est pas président de la République, on est président de la République à la tête d'une coalition politique. Les Français n'aiment plus François Hollande, mais les Français n'aiment pas davantage une majorité socialiste qui ne sait plus où elle va. Donc, il faut inventer quelque chose, et là, la formule politique n'est pas inventée, et il est dans la même situation que Jean-Jacques Servan-Schreiber dans les années 70, ou que François Bayrou dans les années 2000. En d'autres termes, je termine par là, je vois derrière ce jeune homme, brillant, emportant tous les cœurs avec soi, je perçois Alcibiade, je ne vois pas Périclès.
Oh. Eh bien. Dans un autre genre, il me semble que la réponse de l'ensemble de la classe politique à Emmanuel Macron fait beaucoup penser à la blague de Groucho Marx assis dans le métro, voyant arriver une dame et lui disant « Madame, je vous céderai volontiers ma place, malheureusement, elle est occupée. » Sylvie Goffman.
Merci d'élever le débat politique à ce niveau qui en a bien besoin, je dois dire. Alors, Emmanuel Macron a choisi, je ne sais pas si c'est par égard pour François Hollande qu'il a choisi d'annoncer sa candidature un jour où François Hollande était absent, puisqu'il était à Marrakech où il participait à la COP22. Mais en tout cas, je crois qu'on peut dire que la candidature d'Emmanuel Macron, c'est d'abord l'échec de François Hollande. C'est l'échec... d'abord d'avoir son échec à avoir poussé et vraiment lancé et mis en œuvre le programme de réforme que défendait Emmanuel Macron quand il était au gouvernement. Et puis c'est aussi l'échec de François Hollande qui n'est pas réussi à rassembler la gauche. Et au même moment aussi, on avait ce sondage, je crois que c'est un sondage BVA, qui prévoyait que si François Hollande se présentait à la primaire, il serait battu par Arnaud Montebourg au deuxième tour, ce qui est quand même quelque chose d'assez impressionnant, je dois dire. Alors, le problème, je crois, que pose Emmanuel Macron, c'est d'abord celui de la gauche, c'est-à-dire, et d'ailleurs, vous avez cité Cambadélis qui dit « cette démarche est très embêtante pour la gauche ». Voilà, tout est dit. Que reste-t-il de la gauche aujourd'hui? On a une sorte de suicide collectif qu'on voit dans cette précipitation, enfin dans cette multiplicité de candidatures déjà à la présidentielle. On peut déjà imaginer un éparpillement des candidatures, des voix. On a déjà vu ça par le passé, ça a été assez catastrophique. On a l'impression qu'il ne manque déjà plus que c'est avec toutes les candidatures qu'on a déjà en vue à la présidentielle. Et je crois qu'il ne manque plus que Christiane Taubira pour que l'éparpillement soit à peu près complet. Donc, que fait Emmanuel Macron? Il tire les leçons de cette gauche en miettes, et lui, il a les mains libres, contrairement à Manuel Valls, qui est tenu par le Parti socialiste et par sa volonté de sauver le Parti socialiste. Lui, il n'a pas à sauver le Parti socialiste. Il peut le pulvériser puisqu'il est déjà dynamité de l'intérieur. Et ça, c'est un grand avantage pour lui. On voit que la France n'en a pas le monopole, la gauche française n'en a pas le monopole. On retrouve ce malaise et cette crise dans un grand nombre de partis sociaux-démocrates à l'étranger. On voit ça au Labour en Grande-Bretagne, on voit ça maintenant au Parti démocrate américain, qui est complètement sonné par la défaite d'Hillary Clinton. Et on devine déjà Bernie Sanders, on y reviendra tout à l'heure, mais qui va faire le parallèle de Corbyn en Grande-Bretagne. Donc, cette déroute des partis britanniques et américains qui laisse prévoir un retour d'une sorte de gauche recroquevillée sur son antilibéralisme. On a aussi ce malaise en Italie, en Espagne, voilà. Donc on a là un terreau sur lequel Emmanuel Macron peut effectivement dire, voilà, moi, il y a des ruines fumantes et je vais construire là-dessus. Alors qu'est-ce qu'il va construire? C'est toute la question. Et Jean-Louis a tout à fait raison de dire il va inventer quelque chose, mais qu'est-ce que c'est ce quelque chose? Alors aussi, est-ce qu'il peut gagner? Moi, je crois que... Est-ce qu'il pense pouvoir gagner? Je crois qu'il faudrait un alignement des planètes vraiment extraordinaire à gauche et à droite. Je sais bien qu'aujourd'hui, maintenant, avec ce qui se passe partout, tout est possible, mais je vois assez mal mathématiquement comment, notamment en raison de l'éparpillement des voix des candidatures que j'ai citées, il peut avoir une chance raisonnable de gagner dans 6 mois. Donc, ce qui me fait penser qu'en fait, il se positionne pour la reconstruction et qu'il a encore un grand chemin à faire. Ça, je trouve que c'est effectivement, c'est une... Alors, il faut que je fasse attention, il paraît que je dis beaucoup, effectivement. il se positionne pour la reconstruction. Quelle reconstruction? On attend de savoir, et je crois qu'il va progresser là-dessus. Pour l'instant, il se présente comme un candidat anti-système. Alors, on peut beaucoup gloser sur ce côté anti-système. C'est vrai que quand on est né dans la bourgeoisie de province, qu'on a eu une bonne éducation, qu'on a fait les grandes écoles, qu'on a été banquier chez Rothschild, qu'on a été secrétaire général adjoint de l'Élysée et ministre de l'économie, tout ça à 38 ans, c'est un peu difficile de se présenter comme anti-système. Mais attention, Donald Donald Trump aussi s'est présenté comme anti-système. C'est un milliardaire, c'est un héritier, et ça a marché. Ce que je trouve intéressant là, c'est que Emmanuel Macron, il vole le monopole de l'anti-système à Marine Le Pen, et qui a d'ailleurs présenté son nouveau logo le même jour que Emmanuel Macron présentait sa, enfin annonçait sa candidature future. Voilà. En revanche, ce qui joue en lui, ce qui lui permet, ce qui lui donne d'une certaine manière cette légitimité de se présenter contre le système, c'est qu'il n'a pas de parti. Et c'est à la fois une force, mais c'est aussi une faiblesse, parce qu'on voit mal comment il peut gagner sans parti.
Thierry Pêche.
Écoutez, moi, je pense que dans cette campagne où on se perd à faire des commentaires sur les calculs des uns et des autres, des stratégies, ou alors où on se perd dans les détails des programmes, Bruno Le Maire 1000 pages, Alain Juppé 3 livres, chercher un projet est...
On parle pas des premières, on parle de tout le monde.
Je vous laisse faire ça, Jean-Louis. Vous compléterez fondamentalement.
Ah oui, c'est ça. La règle, voilà. Paraît-il qu'il faudrait nommer M. Poisson, Mme Kosciusko-Morizet, M. Le Maire, M. Fillon, M. Sarkozy, M. Juppé et M. Copé.
Voilà, c'est fait.
Vous vous rappelez, dans Godard, il y avait, dans le week-end, je crois, il avait fait une coproduction avec les Italiens pour des raisons fiscales, et il n'y avait qu'une seule image italienne où on voyait une dizaine de gars qui disaient: Siamo gli attori italiani della coproduzione. C'était fini.
Bien. Donc.
Anche loro sono gli attori della coproduzione.
Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de savoir de quoi Macron est le nom quand on regarde ses propositions, les propositions qu'il a faites dans le Nouvel Observateur. Quelle philosophie s'en dégage? Pas le détail des propositions. On peut avoir, Jean-Louis y a fait allusion, des désaccords sur telle ou telle mesure concernant les 35 heures ou autre. Mais quel paysage ça dessine? Et moi, il me semble que ça, il y a trois points qui ressortent de ces propositions que je voudrais essayer de souligner et desquels on peut déduire, je crois, une philosophie politique qui ne sera pas très éloignée de ce que Jean-Louis appelait de ses voeux, c'est-à-dire un compromis entre la liberté, la protection et la régulation, pour reprendre vos mots. Premièrement, première chose qui ressort fortement de ces propositions, c'est une culture du contrat contre la loi. Il y revient, je ne sais à combien de reprises dans son entretien, il dit « moi je veux qu'on puisse développer le dialogue social dans les branches, négocier sur le temps de travail, négocier sur beaucoup de choses en réalité ». Il est favorable, d'ailleurs ce sont des mots qu'on utilisait beaucoup à la fin des années 90, début des années 2000, dans le cadre de ce qu'on appelait à l'époque la refondation sociale entre Nicole Notta pour la CFDT, Denis Kessler pour le MEDEF à l'époque. Il est clairement dans une philosophie du contrat plutôt que dans une philosophie jacobine de la loi. C'est le premier point. Le deuxième point qui ressort fortement de cet entretien, c'est un attachement à ce que les sociodémocrates appelleraient la flex-sécurité. À plusieurs reprises, vous y avez fait allusion dans votre introduction, Philippe, concernant notamment l'accès aux indemnités de chômage pour un certain nombre de profils qui, pour le moment, n'y ont pas accès, ou très marginalement, les indépendants, les auto-entrepreneurs, mais aussi les personnes qui démissionnent de leur emploi. Il veut créer les conditions d'une allocation beaucoup plus universelle, d'un accès beaucoup plus universel à la protection contre le chômage, c'est-à-dire créer des conditions de sécurité plus étendues pour toute une série de publics. Contrairement à une droite qui, par exemple, prône la dégressivité de ses indemnités de façon assez unanime, et on pourrait répéter les 7 noms que vous avez évoqués à l'instant, Philippe, je crois qu'ils seraient tous d'accord sur ce point. Et en même temps, bien sûr, il veut plus de flexibilité, il dit vouloir sécuriser les ruptures de contrat, hein, ce qui veut dire, en clair, donner plus de flexibilité aux entreprises. C'est un équilibre assez suédois, au fond, l'équilibre qu'il vise à travers ces propositions. Enfin, troisième point, il insiste énormément sur l'investissement dans la petite enfance. Ils disent qu'il est prioritaire dans l'éducation nationale aujourd'hui, c'est l'école primaire. C'est d'ailleurs ce qui reste à faire, parce que peu a été fait par la présente majorité dans ce domaine. Mais c'est là qu'effectivement on créera les conditions d'une plus grande égalité, d'une meilleure préparation à l'entrée dans la compétition sociale, dans la vie, etc. Alors, si je reprends ces trois points, qui me semblent assez objectifs, assez indiscutables, qu'est-ce que ça dessine ? À peu près partout en Europe, à l'exception de la France, on dirait que c'est un programme social-démocrate. On dirait en Suède, bah voilà, c'est un programme de flexécurité de type social-démocrate. Il y a effectivement plus de liberté que dans la voie traditionnelle de la gauche française, plus de liberté pour les entrepreneurs, pour les entreprises, mais il y a aussi plus de sécurité. Alors tout ça méritera d'être précisé, bien sûr, et c'est un peu la critique qu'on pourrait lui faire à ce stade, c'est qu'il faudrait chiffrer tout ça, il faudrait le dessiner plus précisément, tout ça est encore un peu flou, mais la philosophie qui est derrière, et je pense que ce qui manque le plus à cette campagne commençante, c'est une philosophie, que chacun essaye de dire sa philosophie. À part le grand coup de balai libéral à droite, je ne vois pas de philosophie politique se dessiner réellement. Et à gauche, malheureusement, je n'en vois pas beaucoup non plus, à part des candidats qui sont, comme d'habitude, j'ai envie de dire, dans la défense de la citadelle salariale de la société des années 70, en gros. Donc, il nous faut un peu plus. Si j'allais au bout de ma pensée, je dirais que Emmanuel Macron, tel qu'on le voit se dessiner à travers ses propositions, c'est François Hollande s'il était allé au bout de sa philosophie social-démocrate.
Pour ce qui est de la dernière élection que nous ayons eue à commenter, c'était l'élection américaine, pendant toutes les semaines et les mois qui l'avaient précédée, nous nous étions intéressés à l'offre. Et nous en avions conclu que Mme Clinton avait toutes les chances derrière elle. Là, nous sommes encore en train de nous intéresser à l'offre. Et est-ce que c'est ce qui sera déterminant dans la prochaine élection, ou est-ce que c'est par exemple le fait qu'il y a une saturation des partis politiques, un sentiment qu'ils sont irréformables, et peut-être encore plus le Parti socialiste que les autres? Est-ce que c'est le fait que tous les candidats, à l'exception d'Emmanuel Macron, sont des vieux candidats, soit qu'ils étaient candidats à la candidature, comme M. Montebourg, soit qu'ils aient été eux-mêmes déjà candidats? Quel est le facteur qui pourrait faire donner une sorte de prime à Emmanuel Macron, ou en tout cas, comment est-ce que vous analysez la demande face à Emmanuel Macron, dont je pense, moi, qu'elle sera plus importante, qu'elle jouera un rôle plus important que l'offre de programme à laquelle je crains que plus personne ne prête l'attention, surtout quand, comme le faisait remarquer Jean-Louis, les programmes ne font pas moins de 1000 pages, comme celui d'un septième des candidats de la primaire de droite et du centre d'aujourd'hui. Oui, Thierry Pêche.
Oui, non, mais si vous voulez, un programme, c'est bien, un projet, c'est mieux. Voilà. Et quand on a un projet, après, le programme prend sens. Il y a trop de programmes dans cette campagne, il y a trop de calculs et il n'y a pas assez de projets. Et c'est ça qu'on devrait essayer de faire entendre aux Français. Parce qu'au fond, ce qu'ils vont vouloir acheter, les Français, c'est une direction, c'est une intention. C'est une idée de ce qu'ils ont à faire ensemble. Et je n'ai pas le sentiment que les autres candidats, pour le moment, leur proposent quelque chose de cohérent de ce point de vue-là.
Sylvie Kaufmann.
Je crois qu'Emmanuel Macron a très bien compris et a très bien saisi sa chance la désaffection des Français à l'égard du système politique actuel. Ça, je crois que les sondages Le Monde, on a publié dans Le Monde une étude d'Ipsos, Sciences Po, l'Institut Montaigne, le 8 novembre, je crois, qui montre que plus des trois quarts des Français ne sont pas satisfaits du système politique tel qu'il fonctionne actuellement. Ils considèrent que il y a des élections, mais que ça ne change rien, etc. Donc lui, il surfe là-dessus, il a très bien compris. Après, ça ne suffit pas. Il faut, lorsqu'il va affiner ses propositions, et je crois qu'il est qu'au début de son explication, on voit bien que c'est assez incomplet tout ce qu'il dit dans ses interviews, il faut qu'il arrive à se rapprocher de l'humeur actuelle aussi à l'égard de la mondialisation, de cette anxiété, de cette inquiétude qu'ont les gens. Il dit, et Valls le dit aussi, les gens attendent une explication du monde, les Français attendent une explication du monde. Et c'est vrai. Alors, lui se présente comme le candidat de l'espérance, c'est très, comme dit Jean-Louis, c'est très frais, c'est agréable, c'est positif, c'est bien par rapport à tous les vieux barbons qu'on a, c'est un bon changement. Mais ça ne suffit pas, effectivement, et puis il faut, j'ai encore dit effectivement, et puis il faut qu'il arrive à gagner le soutien de deux des trois France qu'il décrit, je trouve, avec pas mal de finesse dans son interview à l'Obs. C'est la France des villes, des métropoles, qui est celle qu'il soutient, quand il va à Londres, par exemple, il est très très populaire auprès des Français de Londres, qui lui donnent de l'argent. Donc il a cette France, cette première France qui est favorable à la mondialisation parce qu'elle en, elle en, elle en retire un bénéfice et elle est à l'aise dedans. Il y a la France périurbaine, périrurale, et puis il y a la France des quartiers, des banlieues. Et ces deux France, il faut qu'il les gagne et il faut qu'il montre qu'il peut être entendu dans ces catégories.
Je demande à mon assistant de noter les effectivement de Sylvie Kaufmann, les fondamentalement de Jean-Louis Bourlange, et de prélever 1 euro par adverbe à la sortie. Jean-Louis Bourlange, oui. À mon bénéfice, évidemment.
Très bien, au moins ça servira à quelque chose, et à quelqu'un. Je pense que ce qui donne densité à un projet politique, c'est effectivement, et c'est un mythe toujours, un mythe quelque chose dans lequel une collectivité, une communauté se reconnaît. On verra, on va discuter de Trump, que c'est ce qui a manqué au trumpisme, même s'il a gagné. Et là, on voit bien qu'au XIXe siècle, le grand enjeu, c'était la constitution d'un pacte républicain réunissant la bourgeoisie et le peuple des campagnes, qui s'est réalisé sous la Troisième République, sous les figures tutélaires de Jules de Gambetta, de Jules Ferry et de Waldeck-Rousseau. On voit bien qu'au XXe siècle, l'enjeu, ça a été de sortir la classe ouvrière de son ghetto et le sortir à travers un double mouvement qui était la protestation communiste, marxiste, révolutionnaire et la transformation keynésienne. Et on voit bien que comment elles se sont épaulées l'une l'autre pour aboutir aux Trente Glorieuses et à la constitution du mythe de ce que Jean Ferriou avait appelé Pierrot et Aline, ces modestes héros des classes populaires qui s'élèvent sous la Ve République et même sous la Quatrième, dès la Quatrième République, à la condition de petits bourgeois tranquilles, heureux. Et aujourd'hui, quel est ce pacte? Quel est le pacte dont le futur président, le candidat qui pourrait fédérer les Français doit être porteur? Il me semble que c'est face à l'immense sentiment de précarité des classes moyennes, c'est la volonté de réconcilier, et c'est possible, mais il faut donner à cela une espèce de force d'évidence, de réconcilier l'exigence de rigueur, d'initiative, de combativité. Il n'est pas de liberté sans vaillance, je cite à nouveau un grec, et en même temps de sûreté, de lutte contre la précarité, et tout cela tournant assez largement autour du destin des classes moyennes. Et je crois que les solutions économiques, sociales, éducatives, de formation, de redistribution du capital éventuellement qu'on doit imaginer, doivent être portées par cette volonté de réconciliation. Et jusqu'à présent, je trouve que ce qu'on nous propose ici et là, c'est un peu fragmenté.
Thierry Pêche.
Oui, moi je suis d'accord avec Jean-Louis sur un point. Enfin, je crois être d'accord avec lui. Il confirmera si nous sommes fondamentalement d'accord.
Émission, nous sommes de plus en plus d'accord.
Non, mais ne le dites pas trop fort, s'il vous plaît.
Oui, il y a du licenciement dans le.
Je pense que les sociétés occidentales, dont la France, dont le Royaume-Uni, dont les États-Unis, courent un risque majeur de dislocation de leur cohésion sociale. De profonde dislocation de leur cohésion sociale. Et que si on ne répond pas à cette question-là, on passe à côté de la question de ce début de XXIe siècle. Et je suis inquiet quand j'écoute, par exemple, la droite, qui pense qu'elle peut revenir au pouvoir comme ça parce que c'est le jeu de l'alternance, son coup de balai libéral, toutes ses idées sur il faut tordre le cou au pouvoir syndical, etc. Cette droite-là ne dit rien sur la question sociale présente. Elle ne parle pas de ça. Elle ne parle pas de la précarité. Elle ne propose rien. C'est tout de même surprenant. On vient de vivre des tsunamis électoraux, des votes insurrectionnels, comme dit Hubert Védrine, en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Enfin, c'était pas un tsunami électoral aux États-Unis, mais c'était un vote insurrectionnel, très certainement. Et en France, on pourrait s'abstraire de cette question sociale. C'est évidemment pas le cas. Il faut évidemment parler à ceux qui, dans ce pays, dans les classes moyennes, se sentent insécurisés, mais aussi dans les classes populaires, sont totalement précarisés et sont en colère. Si on ne parle pas à ces gens-là, ça va mal tourner. On est assis sur un volcan. Alors, qui parle à ces gens-là? Qui leur propose quelque chose? Je voudrais juste revenir sur Alcibiade et Périclès. Vous vous souvenez, comme moi, très probablement, Jean-Louis, que dans les guerres du Péloponnèse, Périclès est appelé à faire un discours devant les morts d'Athènes, et il dit, non pas hommage aux morts, il dit, je vais d'abord vous dire ce que c'est que la cité démocratique. Il dit, notre cité démocratique, elle est une démocratie pourquoi? Elle est une démocratie parce qu'elle œuvre au sort de tous et pas de quelques-uns. Et parce que parmi les lois qu'elle protège, elle met au-dessus de toutes les autres les lois en faveur des opprimés. Est-ce que quelqu'un, alors c'est peut-être pas Alcibiade, mais est-ce que quelqu'un aujourd'hui est capable de dire ça aux Français?
De Périclès, ça donne.
Candidat qu'elle mérite, je suis bien d'accord.
De Périclès à Donald Trump.
Je n'aurais pas fait ce résumé. Fondamentalement,
de Périclès
ça
à Donald Trump, disais-je, il n'y a qu'un immense fossé. Mais cependant, nous allons nous intéresser au début du président élu des États-Unis. Donald Trump dispose de 2 mois pour composer son gouvernement et assurer la transition avec celui de Barack Obama. Le président élu, dont le vice-président Mike Pence est connu depuis juillet, a choisi Reince Priebus, qui est le président du comité national du Parti républicain, pour le poste de secrétaire général de la Maison-Blanche, le chief of staff. Le directeur de campagne de Donald Trump, Stephen Bannon, ancien de Goldman Sachs et directeur du média controversé Bret Hart News, a été nommé chef de la stratégie et haut conseiller du président. Le général à la retraite Mike Flynn, favorable à la collaboration des États-Unis et de la Russie et adversaire déterminé du fondamentalisme islamique, sera le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche. Le sénateur de l'Alabama, Jeff Sessions, hostile à l'immigration, à l'avortement et au mariage homosexuel, occupera le poste de procureur général des États-Unis. Mike Pompeo dirigera la CIA, il est membre du Tea Party et il s'était opposé à la fermeture de Guantanamo ainsi qu'à l'accord sur le nucléaire iranien. Donald Trump est revenu sur certaines promesses de campagne. Sa volonté de supprimer l'Obamacare semble s'être infléchie lors de sa rencontre avec le président sortant. Lors d'un entretien accordé au Wall Street Journal, Trump a expliqué que la loi sera finalement, je cite, « soit amendée, soit abrogée, soit remplacée ». La promesse de déchirer l'accord sur le nucléaire iranien a été nuancée par son conseiller en politique étrangère, Walid Fares. Il s'agit désormais de le réexaminer. Donald Trump a déclaré sur CBS que l'expulsion des 11 millions de migrants illégaux pourrait se limiter à ceux qui parmi eux sont des criminels et qui ont un casier judiciaire, soit 2 ou 3 millions de personnes. La construction d'un mur de béton le long de la frontière mexicaine a été qualifiée par Newt Gingrich de super outil de campagne. Et Trump est revenu sur cette promesse en mentionnant la possibilité d'une clôture partielle. Barack Obama, au cours de sa conférence de presse du 15 novembre, a déclaré voir en Trump un pragmatique davantage qu'un idéologue. Le président élu persiste dans son ambition de se retirer au plus vite de l'accord de Paris sur le climat. Sa liste de 4 candidats pressentis au poste d'administrateur de l'Agence de protection de l'environnement compte 2 lobbyistes des énergies fossiles. Le rejet de l'avortement et la défense du droit au port d'armes, au sujet desquels la position de Trump est inchangée, relèvent de la compétence de droit et de fait de la Cour suprême. Or, depuis la mort du juge conservateur Antonin Scalia en février 2016 et après le rejet par le Sénat du juge désigné par Barack Obama, la majorité politique de la Cour suprême dépend du choix du président élu et de l'approbation d'un congrès, aujourd'hui de la même couleur politique, quoique pas nécessairement en toute chose de la même nuance. Sur cette question, Sylvie Kaufmann.
Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire des 10 premiers jours ou des 12 premiers jours de Donald Trump si on regarde les nominations, quoi qu'il en dise, c'est un processus quand même assez désordonné. Il a très mal pris le fait que le New York Times dise que ça se passait mal et qu'il y avait de la confusion. Et il a immédiatement tweeté en disant que le New York Times avait tout faux. Mais le fait est qu'on est en droit de se demander, en regardant ce qui s'est passé ces derniers jours, s'il était vraiment prêt et si lui-même n'a pas été surpris aussi par sa victoire. Alors, il a lancé beaucoup de ballons d'essai. On a tout le monde a jonglé avec ses noms qui sortaient de droite et de gauche. On voit que Newt Gingrich, qui était un des plus souvent mentionnés et qui était en première ligne, si je puis dire, a disparu. Et d'ailleurs, a dit qu'il était finalement qu'il se retirait de ses postes, qu'il ne souhaitait pas avoir de poste. Rudy Giuliani, l'ancien maire de New York, est allé se reposer à Palm Beach. Donc, on a, vous l'avez dit, des nominations qui, pour l'instant, vont dans un sens assez conservateur, dur, de la droite plutôt radicale, même si on a Reince Priebus, effectivement. Je leur dis montre que Donald Trump veut travailler avec le Parti républicain. C'est le côté pragmatique, mais en même temps, il nomme Steve Bannon, qui se définit lui-même comme un nationaliste économique et dont les valeurs conservatrices sont bien connues. Dans les 3 nominations importantes que vous avez mentionnées, donc le général Flynn, Mike Pompeo et Jefferson Beauregard Sessions, parce que c'est son nom et je trouve que c'est assez joli, on voit des symboles très affirmés avec beaucoup de force. Jeff Sessions, sénateur ultra-conservateur de l'Alabama succède quand même au ministère de la Justice comme Attorney General à Loretta Lynch, une femme noire. Donc on voit là quand même la symbolique. Mike Pompeo à la tête de la CIA, donc c'est quelqu'un qui a défendu Guantanamo, qui veut conserver, qui lui et le général Flynn sont des gens qui parlent de l'islam dans son ensemble comme une idéologie, qui disent l'idéologie de l'islam, qui ne parlent pas de l'extrémisme radical ou du fondamentalisme musulman. Ils parlent de l'islam en général. Donc on a quand même un panorama là qui se situe bien dans la continuation de la campagne électorale. En même temps, il manque beaucoup de noms. On n'a pas encore c'est pas grave en termes de délai, mais ça nous empêche de tirer des conclusions définitives de ce début de transition. On n'a pas le nom du futur secrétaire d'État, on n'a pas le nom du futur secrétaire à la Défense. Donc, par exemple, sur tout ce qui est sécurité nationale et diplomatie, on n'a pas encore la vraie direction. Donald Trump devait recevoir aujourd'hui Mike Romney, l'ancien candidat à la Maison-Blanche, qui serait un élément plus modérateur. Il doit aussi voir la gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, ce qui serait aussi un élément tout à fait modérateur. Donc voilà, je crois qu'il faut quand même un petit peu attendre pour se prononcer. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que on lui a demandé, je crois que c'était dans son interview à CBS, est-ce que vous avez des regrets sur cette rhétorique incendiaire que vous avez utilisée pendant la campagne ? Il dit non, parce que j'ai gagné. Et maintenant, c'est différent. Bon, donc on le voit effectivement. Pardon, on le voit, il y a pas mal de domaines dans lesquels il revient à des positions beaucoup plus raisonnables sur l'histoire du mur avec la frontière mexicaine qui ne sera plus qu'un grillage sur une certaine longueur, sur l'immigration, ça sera plus que 2 ou 3 millions et non plus 11 millions de sans-papiers expulsés. Mais il y a aussi des choses sur lesquelles il est tout à fait fidèle à ce qu'il a dit pendant la campagne, et j'en termine là. Sur l'économie, il va se lancer dans une dérégulation bancaire assez importante, et puis il a promis de mettre en œuvre ce plan de grands travaux et de dépenses d'infrastructures.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, moi je dois dire que je ne me remets pas de cette victoire un peu volée d'ailleurs au bout du compte, puisque contrairement à ce qu'on avait dit, Madame Clinton a eu plus d'1,2 million de voix de plus que son adversaire, ce qui pour le candidat des élites par rapport au candidat du peuple n'est pas si mal. Mais je suis profondément atteint, perturbé par cet acquiescement de tout un ensemble de gens aux États-Unis et dans la communauté internationale à ce que sera le trumpisme. Je ne sais pas si cet acquiescement est de cynisme, en disant il a dit des choses, il fera le contraire, s'il est de résignation, c'est la première puissance du monde, on doit s'incliner, s'il n'est pas d'intérêt, de connivence. Après tout, baisser les impôts sur les actionnaires, baisser les impôts sur les sociétés, ça augmente le profit des actionnaires, ça augmente les riches. Bon, c'est ce que voulaient les gens qui ont voté pour lui. Et d'une façon générale, une connivence avec cette représentation de ce qu'est devenue la politique et de cette campagne qui s'est conclue par un scrutin qui est la négation de ce que doit être en démocratie. On peut invoquer à nouveau Périclès, de ce que doit être un pacte politique. Je crois que nous n'en avons pas fini avec les atteintes portées à la notion même de pacte politique. J'en vois quatre. D'abord, l'esprit de communauté. Un candidat est un homme qui représente une communauté. Et quand on est président des États-Unis, on la représente à deux titres. D'abord parce qu'on est la première puissance du monde et que cette puissance est toujours vécue comme cherchant, sans toujours l'atteindre bien sûr, à être un modèle, un garant, une promesse. Là, rien. C'est une ZAD, une zone à défendre contre tout ce qui l'entoure. Quand le plus puissant devient le plus indifférent aux autres, c'est grave. Molière l'a dit. Un grand seigneur méchant homme est une terrible chose. Mais la communauté à l'intérieur, la communauté même des États-Unis, ce qui fait les discours de Trump,
C'est le contraire du discours d'Abraham Lincoln à Gettysburg. C'est le contraire du discours d'Obama à Philadelphie. C'est le contraire d'une communauté rassemblée. C'est l'établissement de frontières à tous les niveaux de la société américaine. On dresse toutes les fractions de la société les unes contre les autres en espérant qu'en secouant bien les œufs brouillés, on aura quelque chose qui fera un peu plus de 50%, au moins de 50% des représentants des États. Donc c'est la négation de l'esprit même d'une communauté nationale. C'est très nouveau aux États-Unis. Le culte de la frontière chez Trump, c'est le contraire du culte de la nouvelle frontière ou de la Great Society chez les présidents démocrates Kennedy, en particulier du début des années 60. La deuxième chose, c'est le refus de l'historicité. C'est très frappant que ce qui caractérise Trump, c'est maintenant, tout de suite, je veux, j'aime. Je ne m'occupe pas de ce qu'il y a avant. Je méprise les anciens combattants, McCain, etc. Je méprise ceux qui suivront. Je me fiche du climat, du dérèglement climatique. Je ne veux pas tout cela. Je veux mon bénéfice maintenant, tout de suite. Le troisième déficit, c'est le déficit de moralité. Je n'ai aucun sur moi. Ce qui compte, c'est ma pulsion et la pulsion des autres. Et il s'agit de célébrer ces pulsions. C'est la devise de Trump, c'est pulsion de tous les États, unissez-vous. Et avec ça, on a une espèce de cocktail qui est évidemment terrifiant. Et enfin, c'est le déficit, et peut-être l'un des plus importants, le refus de la rationalité. C'est-à-dire le refus de l'idée qu'un programme politique est fédéré par une mise en perspective des priorités, une définition de ce qu'il faut faire maintenant et après, une définition de ce qui compte, de ce qu'il faut absolument exclure, de ce qu'on peut mettre au second plan, tout ce travail de la raison qui est effectivement un travail de répression de la pulsion. Ça n'existe absolument pas. Et d'où la dénonciation, et je ne m'associe pas du tout à la dénonciation des élites, car je crois que les seules élites auxquelles Donald Trump se soit vraiment attaqué, ce sont les élites du savoir. Et non pas les élites de la richesse. Bonjour, merci, ça va bien pour eux, et le programme Trump n'est pas du tout mauvais pour les riches. En revanche, ce sont les pauvres qui ont voté contre lui, contrairement à ce qu'on dit. Et en revanche, il dénie la vérité. Il a mis au point l'école du refus des faits, de counterfact. On invente des contrefaits qui sont faux, mais qui servent, qui sont instrumentalisés dans la campagne. Et je m'interroge sur ce qu'on peut dire à nos enfants et à nos petits-enfants quand on leur dit d'aller à l'école, quand on leur dit de travailler bien, quand on leur dit que l'acquisition de savoir, de compétences, d'une lecture rationnelle de la société, c'est quelque chose qui leur permettra d'être à la fois, de se réaliser eux-mêmes, de contribuer au bonheur, au développement général et au bonheur de leur pays. On massacre les valeurs scolaires, universitaires, on massacre les valeurs du savoir au profit de quelque chose de profondément déplaisant. Donc tout ça, alors évidemment, et c'est évidemment, ça n'a aucune importance, puisque quand vous massacrez tout ça, ce qui est vrai aujourd'hui sera faux demain. Donc vous pouvez accepter, vous savez bien que ce qu'a décrit Sylvie est tout à fait juste, ça sera pas tout à fait ce qu'on craignait, ça sera pas beaucoup mieux, parce que l'alliance sera l'alliance entre un populisme dévergondé et l'ultra-conservatisme américain. Et nous, face à cela, je conclue là-dessus, Philippe, face à cela, je pense qu'Obama a raison d'aller voir Merkel. Est-ce que nous devons, nous, Européens, nous situer dans cette ligne, dire « Ah oui, les élites ont eu tort, Trump, après tout, il a pris en compte les intérêts, ce que pense la base, etc. » Est-ce que nous ne devons pas être fidèles à notre promesse historique, celle de l'après-guerre, la promesse de la démocratie représentative rétablie, la promesse de la sécurité collective et de la solidarité, la promesse d'une régulation économique, comme nous le disions à l'instant, accompagnée d'une véritable protection sociale? Est-ce que nous ne devons, et une promesse du respect des minorités, de l'état de droit et de la solidarité fondamentale de l'humanité. L'Europe est porteuse de ces valeurs. Ces valeurs sont menacées par Poutine, par Farage, par Trump. Elles sont défendues aujourd'hui, elles peuvent être défendues par une seule force qui est l'accord restauré, rétabli, malgré les faiblesses de Hollande, l'accord à rétablir entre la France et l'Allemagne dans une Europe qui se construirait sur ces valeurs. C'est le dernier message d'Obama, je le fais mien.
Thierry Pêche.
Moi, je pense que il faut réhabiliter la vérité, le statut de la vérité dans la discussion publique. Elle est méprisée, clairement méprisée. J'avais, la semaine passée, dit ce que je pensais de cet espace public dysfonctionnel qui, aujourd'hui, met la rumeur sur le même plan que l'information et l'argument par ailleurs. Donc, bien sûr, il faut défendre ça. Bien sûr, la politique doit avoir des conséquences. On dit quelque chose, ça a des conséquences. On dit « je veux le Brexit », ben ça a des conséquences. Or, c'est pas du tout ce qu'on observe aujourd'hui. On observe qu'il y a des gens qui remportent des victoires politiques et après, ils se demandent ce qu'ils vont en faire. D'ailleurs, ils vous demandent même s'ils vont en faire quelque chose. C'est terrible pour, pardon, pour tous nos compatriotes. C'est terrible. Ça veut dire que, vraiment, la parole n'a aucun sens. On peut dire n'importe quoi. Et demain, tout est pareil. Bon, je suis d'accord avec tout ça, mais je ne suis pas du tout d'accord avec Jean-Louis quand il dit il n'y a pas de problème avec les élites.
C'est pas du tout.
Non, non, mais on a amorcé ce débat la semaine passée et je pense qu'il n'est pas fini. Je me permets de le prolonger, si vous voulez bien. Je pense que les élites politiques de gouvernement, comme on dit, les élites qui participent de cette culture de gouvernement, ont une responsabilité majeure dans ce qui s'est passé. Que ce soit au Royaume-Uni, que ce soit aux États-Unis, que ce soit demain un peu n'importe où en Europe, parce que c'est possible à peu près n'importe où en Europe aujourd'hui. Bon. Et c'est quoi cette responsabilité? C'est de regarder la société telle qu'elle est aujourd'hui et d'accepter le fait, ce qu'on disait à l'instant dans le débat précédent, que nous avons un énorme problème de cohésion sociale. Je ne pense pas qu'Hillary Clinton ait cerné cette question. Je ne pense pas qu'elle l'ait bien vue, je ne pense pas qu'elle l'ait formulée, je ne pense pas qu'elle lui ait donné corps, je ne pense pas qu'elle ait tenu compte de ce que son compétiteur avait dit, Bernie Sanders, et discours dans lequel il y avait des choses vraies et justes, et c'est pas pour rien qu'il était populaire dans une partie de la population. Alors aujourd'hui, voilà, on a Trump, on a ce qu'on mérite d'une certaine façon, et on ne sait pas de quoi Trump est le nom, bien sûr, on ne sait pas du tout. Est-ce que, alors quand on regarde les projets, Obamacare, il était violemment contre, aujourd'hui on va amender, remplacer, abroger, on ne sait pas. On va faire un mur avec le Mexique, merveilleuse idée électorale. Oui, bah, ce sera peut-être une clôture, on ne sait pas bien non plus. Puis ça devait être financé par le Mexique, finalement ce ne sera pas financé par le Mexique. Donc tout ça, c'est n'importe quoi. On ne sait absolument pas ce qu'il va faire. Les nominations penchent d'un côté assez conservateur, mais en même temps elles sont encore assez incomplètes et on verra bien. Et parmi les nominations, il y a de la famille aussi, on n'en a pas parlé. Il y a des conflits d'intérêts dans tous les sens. Donc c'est vraiment politique circus. Voilà, c'est du cirque. Bon. Alors, le clou du spectacle, de ce cirque général, c'est que y a des élites, effectivement, qui vont empêcher les dividendes de cette grande pagaille. C'est les élites économiques.
Les riches,
les actionnaires, l'économie financière. Le candidat qui était le candidat anti-Wall Street, contrairement à Hillary Clinton, qui était la candidate de Wall Street, est peut-être celui qui va défaire la loi Dodd-Frank. Je vous fais remarquer que, lors de son intervention, Janet Yellen, responsable de la réserve fédérale, de la Fed, donc de l'équivalent de la banque centrale, si vous voulez, aux États-Unis, qui est très prudente, comme tout banquier central, a tout de même fait observer que ce serait une très mauvaise idée de toucher à la loi Dodd-Frank, que ce serait un grand bond en arrière, et que l'insécurité qui serait introduite sur les marchés serait terrifiante. Eh bien, ce candidat qui est censé être le candidat du peuple qui souffre, du petit blanc, du white trash, etc., est peut-être celui qui va réarmer la dérégulation financière. Bravo.
Sylvie Goffman.
Jean-Louis parle d'acquiescement. Je suis pas d'accord. Je pense pas que que ceux qui ont perdu ou ceux qui se sentent visés aujourd'hui ou ceux qui, même ces élites qui sont désignées comme les grandes perdantes ou ces élites arrogantes qui sont coupables de tout ce tsunami ou ce séisme ou ce désastre, selon du point de vue dont on se place, acquiescent à ce qui se passe. Les gens sont sonnés. Mais je ne parlerai pas d'acquiescement, en tout cas pas partout. Il y a plusieurs exemples. Les patrons des multinationales qui se réunissent et disent « Attention, il faut absolument appliquer l'accord de Paris sur le climat. C'est un désastre si vous ne le faites pas. » Je trouve ça un signe assez intéressant. Ce sont les patrons des multinationales. Il y a un incident qui s'est produit l'autre soir à New York. Il y a un spectacle qui a un énorme succès en ce moment à New York, qui est « Hamilton ». Et il se trouve que le vice-président élu, Mike Pence, avait choisi de venir assister à ce spectacle l'autre soir. Quand l'équipe, la troupe de Hamilton a su qu'il était dans l'assistance, quelqu'un a rédigé un communiqué, et à la fin, au moment de saluer, un des membres de la troupe a lu ce message en disant « Monsieur le vice-président élu, vous êtes parmi nous ce soir ». Alors immédiatement, tout le monde s'est mis à siffler. « Non, non, s'il vous plaît, ne sifflez pas, mais nous avons un message pour vous qui est « S'il vous plaît, respectez nos valeurs, respectez les droits des minorités, etc. »
Nous sommes inquiets, a-t-il précisé.
Nous sommes inquiets, absolument. Et ce message n'avait rien d'insultant. Donald Trump l'a très mal pris, a immédiatement tweeté. Et je dois dire que cette habitude qu'il a décidé de garder, parce qu'il dit c'est un moyen de communication directe avec le peuple. Donc je continuerai à tweeter. Mais ça, c'est assez inquiétant parce qu'il tweete toujours un petit peu moins qu'avant, mais toujours sur n'importe quoi et de manière très susceptible. Il n'a pas le cuir épais, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il se vexe très facilement. Donc il leur a demandé, et il a demandé à la troupe d'Hamilton de s'excuser, ce qui est quand même assez, je trouve, assez extraordinaire. Mais ce qui montre aussi qu'il y a une résistance. On voit aussi dans plusieurs villes des États-Unis, qui sont évidemment contrôlées par des démocrates, mais pas des moindres, San Francisco, Chicago, New York, que les municipalités disent « nous, on protégera les gens qui sont menacés d'expulsion, on ne mettra pas la police au service de cette entreprise, etc. » Donc je crois que l'onde de choc est tellement énorme qu'elle prend un petit peu de temps à faire son effet, mais la société, Hillary Clinton a dit ce que nous apprend cette élection, c'est que notre pays est beaucoup plus divisé qu'on ne le pensait, et je crois qu'on va le voir non seulement aux États-Unis, mais également dans le monde occidental et dans le monde en général.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, je voudrais simplement dire que cette notion d'élite est un mythe. Il n'y a pas les élites de l'argent, les élites du savoir et les élites de la politique, ça n'est pas la même chose. Les élites politiques sont élues par des gens. Et ces pauvres élus essaient de se faire réélire et de parler un langage qui soit compréhensible par leurs électeurs. Ça n'est pas facile. Et les attentes des électeurs sont confuses, complexes et pas toujours extrêmement positives. Les élites des riches, l'attitude des riches, les riches sont peut-être beaucoup plus avisés sur ce qu'ils veulent faire que les élus. Mais effectivement, ils creusent à leur avantage les inégalités issues de la mondialisation qui sont très très difficiles à combattre puisque nous avons une mondialisation qui marche à la vitesse du lièvre et une solidarité politique qui marchait à la vitesse d'une tortue et qui avec Trump va reculer. Et enfin les élites du savoir, là encore on bricole, on ne sait pas tout, mais malgré tout on essaie de comprendre, de rationaliser un monde qui nous échappe, la technologie est très difficile et là c'est ça qui est mis en cause. Donc arrêtons de faire cet amalgame, il n'a guère de sens. Et ce que je n'aime pas dans le procès des élites, je dis juste ça, ce que je n'aime pas dans le procès des élites, c'est que c'est une façon indirecte de la part de gens qui n'osent pas dire du bien de Poutine, de dire d'accord, du bien de Trump, lapsus significatif, dire d'accord, on ne va pas dire du bien de Trump, mais on va quand même dire du mal de ceux qui en disent du mal. Et ça ne me plaît pas. Nous n'avons pas aimé Trump, mais nous ne l'avons pas non plus. C'est parce que nous ne l'avons pas aimé, c'est pas parce que nous l'avons ignoré qu'il a été élu. Nous ne l'avons pas aimé et nous avions raison de ne pas l'aimer, en tout cas un certain nombre d'entre nous.
Merci. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves. Cédant une fois de plus à l'amicale pression de la demande générale, je vais l'ouvrir. Passons aux choses urgentes, les cadeaux de Noël. Je voudrais suggérer un cadeau auquel peut-être on ne pense pas spontanément, ce sont les livres lus, les livres enregistrés. Il y en a plusieurs collections, il y en a une notamment chez Gallimard, et je recommanderais trois ouvrages différents et lus de manière également remarquable. Le premier, c'est le 2084 de Boilem Sansal, qui est lu par Thierry et Pierre Ancis. Le deuxième, c'est La promesse de l'aube de Romain Gary, qui est lu magnifiquement par Hervé Pierre. Je l'avais d'ailleurs déjà signalé ici une fois et il est très bien reçu par les acheteurs de ce type de livre. Et le troisième, pour faire une présentation variée, c'est un policier qui s'intitule d'ailleurs Police, qui est d'un Norvégien, Jo Nesbø, je ne sais pas, quand le O est comme dans le cigare du pharaon, alors Jo Nesbø me fait signe Thierry. Et ça s'appelle Police tout simplement et c'est lu par Frédéric Dimnet et c'est remarquablement lui aussi. Alors, quelquefois, ça dure 5 heures, quelquefois, ça dure 18 heures, ça dépend des disques. C'est très remarquable quand on conduit souvent. Et puis enfin, dans une autre collection, celle de Frémaux et Associés, la lecture extraordinaire de Colomba de Mérimée par Serge Reggiani, qui est quelque chose d'absolument, d'un chef-d'œuvre de travail de comédien. Sylvie Kaufmann.
Alors, je voudrais recommander un livre qui est un livre très original, qui s'appelle « Une histoire cambodgienne ». C'est un livre de confession, si je puis dire, qui ont été recueillis par Jean-Daniel Garder, un économiste, quelqu'un qui a travaillé au Cambodge longtemps comme diplomate aussi, enfin comme conseiller économique et puis ensuite comme consultant, qui connaît très bien le Cambodge et qui a réussi à convaincre Keat Chon, qu'il me pardonne, la prononciation est certainement mauvaise, de lui raconter ses 60 ans de vie au service de l'État, de différents gouvernements, de différents régimes, parfois en contradiction les uns avec les autres. Et on sait qu'au Cambodge, ça a commencé sous le protectorat français, bien sûr. Et on sait qu'au Cambodge, cette histoire a été particulièrement tragique et douloureuse. Il a servi tous ces gouvernements et régimes, sauf, je crois, celui de Lon Nol. Et c'est à la fin de sa vie, ce vieux monsieur accepte de raconter ses turpitudes et ses bons moments, et je dois dire que ça fait un témoignage historique assez extraordinaire à lire.
Thierry Pêche.
Moi, je voulais vous recommander la lecture d'un livre qui s'appelle « À qui la faute ?», un livre de Jean Pisani-Ferry, que nous avons reçu ici plusieurs fois, qui est économiste et patron de France Stratégie, et de Selma Mahfouz, qui dirige le service de recherche du ministère du Travail, la DARES. C'est un livre absolument remarquable sur comment éviter les erreurs économiques. Et alors, il y a trois cas d'études, trois case studies, comme on dit dans les universités américaines. Le premier, c'est « Pourquoi on a laissé tomber Lehman ?» et déclencher la terrible crise financière de 2008, alors que tout dans la théorie et dans l'expérience recommandait de sauver Lehman pour éviter le désastre. Pourquoi les Européens se sont-ils obstinés à faire de la consolidation budgétaire en période de crise, avec au flambeau en particulier Angela Merkel? Et pourquoi en France, depuis 40 ans, on n'arrive pas à faire reculer significativement le chômage? Et sur ces trois questions, il passe au crible toutes les explications qui permettraient de comprendre nos erreurs. Pourquoi on a fait d'aussi grosses erreurs de façon aussi innocente, d'une certaine façon.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, moi je voudrais citer un petit livre, petit par la taille, qui est paru dans la collection L'âme des peuples, Hongrie, l'angoisse de la disparition, par Françoise Pons. Françoise Pons est une journaliste qui s'est dévouée depuis des années à la cause de l'intégration des pays d'Europe centrale et orientale au sein de l'Union européenne, et d'une façon générale, elle s'est dévouée à l'idée de mettre fin au kidnapping de l'Occident, pour reprendre l'expression de Kundera. Et cette militante européenne, très très active, très très décidée, s'interroge avec beaucoup d'équilibre, beaucoup de subtilité sur le problème hongrois. Hongrie, l'angoisse de la disparition. C'est un titre digne de Georges Perec, La disparition, et elle montre effectivement que ce pays, qui est un pays génial, moi, les intellectuels hongrois, c'est ce qu'on lit de mieux en Europe orientale à bien des égards, est un pays effectivement qui est d'abord ravagé par l'angoisse de ne plus parler cette langue que personne ne comprend et qu'il n'est pas sûr lui-même de comprendre si longtemps que ça.
Merci, c'était donc L'Esprit public, une émission de Philippe Meyer, réalisée par Luc Jean Reynaud, préparée avec Augustin Bernard Roudex et Mathieu Farizier, avec aujourd'hui à la technique Éric Boisset, Julie Garraud et Ludovic Auger. Vous avez maintenant rendez-vous avec Alain Crugère pour une émission de sa série On ne parle pas la bouche pleine, et cette émission s'intitule Pique-nique d'artistes en Picardie. Il y est fortement question de la collaboration entre les arts et la gastronomie dans un centre culturel dont Alain Crugère nous précise qu'il est en plein pays Picard. Merci au public du Studio 105 d'avoir été présent, nombreux et attentifs, et à ce public et à celui qui est de l'autre côté des micros. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur cette même chaîne pour une nouvelle édition de notre émission.